trois lois se suivent au chapitre 21 de la paracha Kitetsé. Un homme prend une femme à la guerre. Un père préfère son fils. Des parents amènent leur enfant devant le tribunal au prétexte qu'il serait glouton et voleur pour qu'on le mette à mort. Trois lois, un seul sujet, nous dit le Rav Sacks. Ce que le cœur fait, personne ne peut l'arrêter. Les sages ont refusé de lire séparément ces trois narratifs. « Prends une femme par la force, disent-ils, et tu auras chez toi une épouse dédaignée. Et chez toi une épouse dédaignée, et tu auras un fils délinquant. » Une chaîne. Et ce qui se passe d'un maillon à l'autre de cette chaîne, ce ne sont pas les événements, c'est un sentiment que personne ne peut arrêter. Or, la réponse de la Torah n'est jamais une injonction au ressenti. Ressens autre chose, ressens ceci, ressens cela. Elle ne dit pas à un homme « aime cette femme ». Elle ne dit pas à des parents « aimez votre enfant ». Elle dit quelque chose de beaucoup plus modeste et finalement de beaucoup plus ambitieux et de beaucoup plus humain, nous dit le Rav Sacks, et donc de beaucoup plus puissant. La Torah nous dit « tu n'auras pas le droit de traduire ce que tu ressens en un acte qui blesse ». Kitetsé compte plus de commandements que tout autre paracha, 74 exactement. Et nous la lisons au mois de Elul, à quelques semaines des Yamim Noraim, des jours du jugement. C'est aussi la paracha la plus juridique de l'année, et elle tombe précisément dans cet espace-temps du jugement. Retenez cette information, nous y reviendrons à la fin du shiur. Un des pasouks qui interroge le plus dans cette paracha est le suivant. « Ki tiyen les ish shte nashim, achat ahuva ve achat snua. » Si un homme a deux femmes, l'une qui est aimée et l'autre qui est dédaignée. Ce qui frappe d'abord dans ce pasouk, c'est que la loi ne maquille rien de la réalité des sentiments. Elle nomme précisément les choses. Snoa, elle est haïe. Et ce mot-là n'apparaît que 6 fois dans toute la Torah. 4 fois dans la paracha Kitetsé et 2 fois concernant le lien qui unissait le patriarche Jacob à sa femme Léa. Vayar Hachem qui snoa Léa, vaiftach et rachma. L'Éternel vit que Léa était dédaignée et il ouvrit sa matrice. La Torah aurait pu écrire la seconde épouse ou la moins favorisée. Elle choisit un mot beaucoup plus dur et c'est là, nous dit le Rav Sacks, le premier acte de justice, à savoir appeler la blessure par son nom. Ensuite seulement, elle protège. Pas elle, on ne protège personne d'un cœur qui ne l'aime pas. Elle protège son fils des conséquences du cœur de son père. Et l'expression employée, là aussi, n'apparaît que 2 fois dans toute la Torah. Ki ureshit ono, car il est le prémisse de sa vigueur. Kochi vereshit oni, nous dit-on dans la Genèse concernant Ruben, le premier fils de Jacob. Ma force est les prémices de ma vigueur. Le Sefer Devarim, le Deutéronome, relie, nous dit le Rav Sacks, par-dessus l'épaule du patriarche Jacob. Le droit naît d'une histoire, d'un narratif qui a mal tourné. Le commentateur Sforno, un commentateur italien du XVIe siècle, précise magnifiquement la portée de cet interdit. Il ne vise pas tout transfert d'aînesse, mais uniquement celui qui est motivé par la préférence du père pour une épouse plutôt qu'une autre. Autrement dit, ce que la loi condamne, ce n'est pas l'acte, c'est le motif. Le sentiment n'est pas interdit. Il est interdit qu'il devienne la cause d'un acte juridique. Quiconque s'est un jour assis dans une salle d'audience d'un juge aux affaires familiales connaît cette équation par cœur. On ne peut pas ordonner à un parent d'aimer. On peut lui ordonner de payer, de venir chercher l'enfant tel ou tel jour, telle ou telle heure, de signer tel ou tel document. Le droit avoue par là même sa limite et tient compte exactement de cette limite. Ce n'est pas par faiblesse, mais c'est par dignité pour respecter précisément l'intérêt supérieur de l'enfant. Et là, nous passons à la deuxième phase, qui est celle du fils dévoyé et rebelle. Qui est les ish ben sorer ou moré? Si un homme a un fils dévoyé et rebelle. Les sages ont tout fait pour rendre cette loi inapplicable. Une fenêtre de 3 mois, une mesure précise de viande et de vin consommée d'un trait hors de la maison. Et Rabbi Yehuda ajoute, si la mère n'est pas identique au père par la voix, l'apparence et la taille, il n'y a pas de fils rebelle. Rabbi Shimon bar Yochai va conclure, Lo haya velo atid liot velaman irtav des roches des kabel sachar. Cette loi du fils rebelle n'a jamais eu lieu et n'aura jamais lieu. Pourquoi donc la Torah l'a-t-elle écrit? Rabbi Shimon bar Yochai nous dit, parce qu'il faut l'étudier et si tu l'étudies, tu recevras une récompense. Quelle est la récompense de cette étude d'un cas juridique complètement fictif? Et d'ailleurs, pourquoi inventer cette fiction juridique qui tient d'un acharnement des parents qui tend vers la mort de leur fils? Rabbi Yossi Aglili a justifié cette loi avec une lucidité terrifiante. Il a dit « Ce garçon n'est pas jugé pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il va devenir, qu'il meure innocent plutôt que coupable. C'est une sorte de peine préventive. » Maïmonide, lui, déconstruit cette vision-là des siècles plus tard de Rabbi Yossi Aglili et pose la règle qui interdit cette pente extrêmement dangereuse. Il dit « Une peine disproportionnée à la faute est une injustice et aucun bénéfice pour la société ne peut justifier une telle injustice. On ne fait pas un exemple avec la vie d'un homme. » Et la Torah répond, non par une loi, mais par un récit. Elle nous dit, à qui fait penser ce Ben Sorer ou Moré? Eh bien, il fait penser à Ishmaël, le fils de Hagar. Rappelez-vous, Hagar, le désert, l'enfant qui meurt de soif sous le buisson. Les anges accusent, vas-tu faire jaillir un puits pour celui dont les descendants tueront tes enfants par la soif? Et Dieu dit aux anges, Kishama Elohim, El Kol Anahar, Baasher Usham. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il se tient présentement. Et la Gemara va en tirer une règle. En Danin et à Adam, et là les filles Maasav, Shel Ota Sha'a. On ne juge l'homme que d'après ses actes à cette heure-là précise, c'est dans le traité Rosh Hashanah. Le droit parle de cas généraux, mais le récit qui nous invite à penser cette fiction juridique du Ben Sorer ou Moré est lui fait de chair et de sang. C'est cet enfant-là, sous ce buisson-là, à cette heure-là, devant un enfant qui a soif, même s'il va devenir un des plus grands persécuteurs du peuple juif, personne n'a le pouvoir de prononcer le verdict de l'avenir. Et le Rav Sacks nous emmène dans un raisonnement qui est tout à fait lumineux. Il convoque un dernier passouk de la paracha Ki Tetzé. Lo tetaev adomi ki achicha hu, lo tetaev mitzri ki ger haita be'artso. N'est pas en horreur l'Iduméen, car il est ton frère. N'est pas en horreur l'Égyptien, car tu as séjourné dans son pays. C'est là, nous dit le Rav Sacks, le verset le plus contre-intuitif de la Torah. L'Égypte a asservi, planifié véritablement un génocide, refusé de laisser partir un peuple. Édom, c'est Esav, celui qui a juré de tuer Jacob et toute sa descendance. Et pourtant, ce commandement nous enjoint de ne pas haïr nos ennemis. Mais regardez précisément, nous dit le Rav Sacks, à qui ce commandement est adressé. Pas à ceux qui ont souffert directement, des Édomites et des Égyptiens. Ceux-là sont morts dans le désert. Cette injonction, elle est faite à leurs enfants, aux portes de la terre d'Israël, 40 ans plus tard. Et le verset suivant le dit explicitement. Banim asher yivaldu lahem, dor shlishi yavo lahem bikal Hashem. Leurs enfants, à la troisième génération, pourront entrer dans l'assemblée de l'Éternel. C'est ainsi une loi sur la transmission. Ce que Moshe interdit là, ce n'est pas d'avoir souffert, il ne le nie pas, ni même d'avoir haï, qui est un sentiment ô combien humain. Ce qui est interdit ici, c'est de léguer la haine comme on lègue un patrimoine. Dans la Torah, la haine n'a pas d'héritier légaux. Ibn Ezra montre ce qui arrive quand on la lègue quand même, cette fameuse haine. Datan et Aviran, qui venaient de la tribu de Réhouven, sont devenus les hommes emblématiques de toutes les révoltes du peuple d'Israël dans le désert et principalement de celle de la révolte de Korach. Et Rashi nous dit, s'ils ont été présents au sein de toutes les révoltes, c'est parce que le ressentiment des descendants de la tribu de Ruben, celui-là même qui avait perdu l'aînesse des générations plus tôt, ne s'était jamais éteint. Une blessure non traitée, nous dit le Rav Sacks, dans une famille attend patiemment des générations et des générations pour exploser. Il dit en une phrase qui est très connue et qu'on ne peut pas oublier, Moshe a pu faire sortir Israël de l'Égypte, mais il n'a pas pu faire totalement sortir l'Égypte du cœur du peuple d'Israël. Beaucoup sont restés esclaves, non plus dans leur corps, mais dans leur mémoire. Voici donc ce qui relie ces trois refus. Et regardez ce que la Torah interpose à chaque fois entre le sentiment et l'acte. Il faut le lire dans le texte. Beyom anchilo et banav. Au père qui préfère ses enfants puinés à son fils aîné, la Torah va interposer un espace-temps un jour. La préférence est immédiate, mais l'acte de préférence est reporté et ce jour-là, la loi est présente. Et zikne iro ve'el sha'ar mekomo. Vers les anciens de sa ville, à la porte de sa localité. Aux parents qui ne peuvent plus supporter la présence de leur fils glouton et voleur, elle va interposer là des hommes. Ils n'ont pas le droit de juger leur propre enfant, ils doivent traverser toute la ville et parler devant les anciens. Enfin, la notion de Dor Shlishi de troisième génération, au peuple qui se souvient et qui souffre encore dans sa chair et dans son cœur et dans son âme, de ce que les peuples édomites et égyptiens lui ont fait subir, elle va là interposer un espace-temps encore plus long que celui qui est imposé au père qui va préférer d'autres enfants à son enfant aîné, elle va interposer des générations entières. Le Rav Sacks nous dit donc que nous sommes face à un délai, un tiers, un espace-temps très important. Et il dit que là est toute la vision et l'intervention de la justice dans la Torah. La justice n'est pas le contraire du sentiment. Elle est l'intervalle qu'on glisse à l'intérieur du sentiment. Le tribunal, la médiation, l'audience, le délai de réflexion, tout ce que l'humanité a inventé pour empêcher la main de suivre le cœur tient déjà dans ces trois mots hébreux. C'est peut-être la vraie raison pour laquelle la paracha Kitetsé compte plus de lois que tout autre paracha. Non pas parce que le monde manque de règles, mais c'est parce qu'entre ce que nous éprouvons et ce que nous faisons, il faut mettre le plus de distance possible. Enfin, et c'est là la conclusion de ce chiour, voici le point où cette paracha de juriste devient une prière, une tefila. Nous lisons la paracha Kitetsé donc au mois de Elul, et en Elul, chaque jour, matin et soir, nous récitons le psaume 27. Au milieu du psaume, le verset suivant, « Ki avi ve'imi azavuni va'ashem yasfeni »« Car mon père et ma mère m'ont abandonné et l'Éternel me recueille. » Dans les semaines même où nous lisons la loi de parents venant déclarer devant le tribunal qu'ils ne reconnaissent pas leur enfant, la liturgie met dans notre bouche à la première personne la voix de cet enfant qui crie sa douleur. Nous ne sommes pas les parents dans le texte, nous sommes le fils dans ce verset des psaumes. Chaque année en Elul, nous nous tenons devant une cour accusée d'une vie entière. Et que demandons-nous? Et à qui le demandons-nous? Nous le demandons au roi et nous le demandons à notre père. Exactement ce que l'enfant d'Agar Ishmael a obtenu sans savoir le demander. N'être jugé ni pour ce que nous avons été, ni pour ce qu'on redoute que nous devenions, mais cher à nous, Cham, là où nous nous tenons à cette heure-ci. Et la réponse immense de Kitetsé, c'est que c'est précisément ainsi que Dieu Tout-Puissant nous juge. Plus que nous n'avons foi en Dieu, Dieu a foi en nous. Trois refus donc pour traverser l'année. Refuser que l'amour fasse le droit, refuser de condamner un avenir, refuser de transmettre une haine. Shabbat Shalom.